بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفاعي الإسلام نغمس من الله عز وجل qui nous a donné la possibilité ce soir de faire la troisième salat au tarawih, ou la quatrième, la quatrième salat au tarawih ce soir. Alors hier c'était dimanche, donc on n'avait pas fait de programme. Il faut savoir que hier on avait lu la surat Al-Imran. Et dans la surat Al-Imran, comme tous les surats du Coran, chaque surat est riche d'enseignements, de récits, de leçons de foi. Et un des récits qu'on va retenir, qu'on retiendra de la surat Al-Imran, c'est lorsqu'Allah Azza wa Jal explique comment il a créé le prophète Isa alayhi salam. Le prophète Isa alayhi salam, qui est appelé par les chrétiens comme Jésus-Christ, comment Allah Ta'ala a insufflé l'âme de Isa alayhi salam dans le ventre de sa maman, Maryam alayhi salam, qu'on appelle en français Marie, par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam, de l'ange Gabriel, et comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ce prophète un des plus grands prophètes. Il fait partie des ulul azmi minar rusul, des cinq plus grands prophètes de toute la prophétie, un des prophètes que nous devons le plus respecter. Et dans le surat Al-Imran également, il est expliqué comment à un moment donné Isa alayhi salam savait que parmi ses apôtres, il y en a un qui allait le trahir, et là Isa alayhi salam avait demandé à une personne de l'assemblée parmi ses apôtres, c'est comme les sahaba, d'accord, à un de ses sahaba, de ses compagnons, qui se porte volontaire pour se sacrifier à ma place. Il savait qu'est-ce qui allait se passer. Allah Ta'ala l'avait insufflé, l'avait inspiré, savait qu'est-ce qui allait se passer. La trahison voulait dire. Et là, un de ses apôtres, le plus jeune, s'est porté volontaire pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala modifie son visage et pour qu'il prenne la physionomie du prophète Isa alayhi salam, de Jésus-Christ donc. Et lorsque Isa alayhi salam a vu que c'était ce jeune homme, il a refusé son sacrifice parce que c'était le plus jeune. Il a renouvelé son appel, mais à chaque fois c'était ce jeune qui se portait volontaire. Et là il a compris que c'était là la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi donc, quand les ennemis sont venus le capturer, Isa alayhi salam a été élevé par Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'aux cieux, ce qui fait que les ennemis ont capturé une personne qu'ils croyaient être Jésus-Christ, qu'ils croyaient être Isa alayhi salam, mais Allah Ta'ala a fait un miracle que ce jeune apôtre a eu la physionomie de Isa alayhi salam. Donc il y a eu un crucifix, mais pas Nabiullah, parce que jamais Allah Azza wa Jal n'aurait laissé des mains impures toucher ce prophète, toucher un des plus grands prophètes. Et donc Isa alayhi salam a été élevé aux cieux. Et bon, là c'est plus dans le verset du Coran, ça c'est dans l'Imran. Dans d'autres versets, il est expliqué comment un jour Isa alayhi salam également retournera sur ce dunya. Et ce n'est pas pour rien si Allah Ta'ala dans le Coran dit وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَ. Dans ce verset, Allah Ta'ala explique que les gens les plus proches des musulmans, ce sont ceux qui se disent إِنَّا نَصَارَ, c'est-à-dire les chrétiens, parce que leurs croyances sont extrêmement proches des croyances des musulmans. La seule chose qui les différencie, c'est le changement qu'il y a eu. Et il y a eu bien après, à peu près 3 siècles après le décès de Isa alayhi salam, lorsque les personnes se sont réunies, les religieux avec les rois, ils ont décidé de changer la révélation d'Allah, le Injil, donc la Bible, et malheureusement, ils ont statué, et je dis bien ils ont statué, parce que c'était eux qui ont pris la décision, ils ont statué qu'il y a une part de divinité dans la personne de Isa, de Jésus-Christ, jusqu'à ce que ils arrivent même jusqu'à une forme d'idolâtrie. C'est une forme d'idolâtrie où il y a des fois où ils invoquent Dieu, il y a des fois où ils invoquent la maman de Isa alayhi salam, Maryam, Marie alayhi salam, il y a des fois où ils invoquent même Isa alayhi salam, Jésus, en lui donnant des attributs divins. Mais mis à part ça, on va dire malheureusement, mais Allah avait décidé que les choses se passent ainsi, mis à part ça, leurs croyances sont extrêmement proches des croyances des musulmans. Et ce n'est pas pour rien si à la fin des temps, lorsque Isa alayhi salam reviendra sur cette terre, les chrétiens seront les premiers, hein, ils vont immédiatement accepter Isa alayhi salam, ils vont reconnaître le prophète, et donc ils vont avoir la foi en Isa alayhi salam, et donc la foi en Allah l'unique, comme la foi des musulmans. Donc ça c'était une petite parenthèse du surat Al-Imran hier. Et aujourd'hui on a lu et compléter la surat al-Nisa. La surat al-Nisa, un Nisa c'est les femmes, d'accord? Et très souvent, les gens ont cette image erronée de l'islam concernant les femmes. Très souvent, on dit que c'est une religion de machos, de misogynes, des personnes qui n'aiment pas les femmes, qui déconsidèrent les femmes, qui considèrent les femmes comme une créature inférieure, etc., etc. Alors qu'au centre de ce verset, au centre du verset An-Nisa, les femmes, il y a un verset que chaque homme, chaque mari, et chaque futur mari, inshallah ici présent, doivent retenir, c'est lorsqu'Allah Ta'ala dit « Wa'ashiruhunna bil ma'ruf ». Et « Wa'ashiruhunna bil ma'ruf », Allah Ta'ala ordonne, c'est le amr, c'est l'impératif, « Wa'ashiruhunna », Allah Ta'ala ordonne aux maris, aux époux, d'agir correctement avec leurs épouses dans la vie conjugale. Ça, c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors certains se disent que oui, ceux qui n'ont pas la foi, hein, et qui cherchent le moindre moyen ou raison pour critiquer l'islam, ils se disent que oui, surat les femmes, mais certainement c'est pour les condamner, c'est pour montrer que leur place est à la maison et qu'elles n'ont aucun droit. Bien au contraire, au centre de ce surat, le verset le plus important qui est à la base de l'union entre l'homme et la femme, qui est à la base de la survie du couple. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Et il y a même un autre verset, je ne sais pas si le verset me revient, Inch'Allah. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا. Au cas où, si dans un couple les choses vont très mal, Allah Ta'ala conseille au mari de faire preuve de patience avec cette femme. Même si la manière d'agir donc, de cette femme, c'est tellement difficile qu'à un moment donné, l'homme ne peut plus résister, il a envie de divorcer de cette femme. Allah Ta'ala exhorte, Allah Ta'ala conseille au mari de faire preuve de patience. Pourquoi ? فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Et les commentaires du verset nous fascinent, disent que en compensation de ce sabr, Allah Ta'ala pourra accorder une récompense au mari. Et la récompense, c'est quoi ? C'est une descendance pieuse qui sera la fraîcheur des yeux de ce papa, de ce mari, en faisant preuve de patience. Donc, nous voyons que, à travers ces deux versets du Coran, comment Allah Ta'ala exhorte les maris, hein, l'homme, à respecter sa femme et même à faire preuve de patience en cas de difficulté. Et Fundi avait lu, en la troisième position, d'autres versets. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Comment Allah Ta'ala exhorte le mari, également la femme, hein, exhorte le couple à rester ensemble. S'il y a un problème dans le couple, il ne faut pas arriver au divorce immédiatement. Il faut toujours trouver une solution. De nos jours, malheureusement, le dialogue n'existe presque plus. Mais si nous revenions vers le usloub, la méthodologie du Coran, on voit comment Allah Ta'ala conseille en cas de difficulté, en cas de conflit. C'est-à-dire que vous savez, même à l'époque des Sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, il pouvait y avoir des problèmes entre hommes et femmes dans un couple, parce que c'était avant tout des êtres humains. Comme nous sommes des êtres humains. Ils avaient certainement beaucoup plus de qualités que nous, mais leurs faiblesses, c'était les faiblesses du insan. Comme nous, nos faiblesses sont les faiblesses de l'être humain. Et donc, Allah Ta'ala conseille qu'au cas où s'il y a conflit entre l'homme et la femme, فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا, qu'il faut envoyer des médiateurs. Il faut du côté de la famille du garçon, du mari, il y ait un médiateur, et du côté de la famille de la femme également, il y ait un médiateur qui vont se rencontrer, qui vont discuter, qui vont exposer le problème, exposer le problème avec pour but de trouver une solution pacifique afin que l'homme et la femme reviennent ensemble. Parce que très souvent, les problèmes de couple ont pour origine une mauvaise compréhension mutuelle parce qu'il n'y a pas de dialogue. Quand il y a quelque chose qui énerve, qui frustre un des deux conjoints, ben on ne discute pas. On laisse le problème s'envenimer, s'empirer, jusqu'à arriver à un point de non-retour où là, ça craque, comme on dit, ça pète en créole, ça explose, et là, on ne peut plus rien faire, c'est le divorce. Et quand il y a un divorce, mes chers frères, c'est une catastrophe. Le divorce, c'est la chose licite la plus détestée par Allah. La chose licite, elle est quand même licite, parce qu'il y a une sagesse aussi. Le fait qu'Allah Ta'ala n'a pas interdit le divorce, ce qui permet quand même aux conjoints, si vraiment ça ne va pas, ils sont libres d'arrêter et que chacun refasse sa vie. Autrement, ça aurait été comme une prison. Le lien du mariage aurait été un lien où on ne s'échappe pas. Ça aurait été beaucoup plus difficile. Mais le divorce, on a dit, c'est une catastrophe pour l'homme, pour la femme, pas seulement pour eux, mais pour les deux familles. Parce que quand il y a un mariage, c'est un jeune homme et une jeune fille qui se marient, mais c'est également deux familles, deux tribus, deux kabilas, parfois deux villages même, hein, qui vont s'unir et qu'il y aura un échange, un muhabba. Et quand ça casse, ben c'est tout ça qui casse en même temps. Et quand un homme et une femme sont mariés depuis 5 ans, 6 ans et qu'ils ont des enfants, lorsqu'il y a un divorce, les premiers à en souffrir, ce sont les enfants. Alors nous, par égoïsme, parce qu'on ne veut pas baisser les bras, parce qu'on ne veut pas faire preuve de concession, parce qu'on veut toujours avoir le dernier mot par rapport à madame, on est prêt à casser s'il faut. Rends toute case, dégage, retourne chez ton maman. Mais on ne pense pas à ces enfants qui sont innocents. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, pour subir de telles conséquences? Eux, nos enfants, ils auraient souhaité continuer à vivre sous un toit où il y a l'équilibre entre le papa et la maman. Mais nous, par rapport à notre fierté, comme on l'a dit encore une fois, très souvent, les causes de divorce, c'est l'orgueil, la fierté. On ne veut pas reconnaître nos faiblesses, on veut pas nos faiblesses, nos erreurs. On ne veut pas reconnaître nos erreurs, on ne veut pas reconnaître qu'on a tort. Et pour prouver à l'autre qu'on a raison, dit que bon, ben, je ne veux rien entendre, s'il le faut, rentre chez toi. Et cet orgueil, parfois c'est le mari qui en fait preuve, parfois c'est également la femme. Donc ça, c'est vraiment, mes chers frères, quelque chose qu'il faut éviter au maximum. Pour nous, pour les familles, pour la muhabba de la Ummah d'une manière générale, et surtout, pour l'équilibre psychologique de nos enfants. Parce qu'un enfant qui grandit uniquement avec son papa, sans sa maman, ou alors uniquement avec sa maman, sans son papa, c'est un enfant qui ne connaîtra pas un réel équilibre. C'est un enfant qui va grandir sans les deux repères qui sont nécessaires. Un enfant, pour grandir, les ulama tarbiya disent qu'il a besoin des deux repères. La maman est un repère qui l'inculque certaines valeurs, et le père est un autre repère qui l'inculque d'autres valeurs. L'enfant, il respecte énormément. Il est admiratif de son papa. Il essaie d'imiter son père. Tandis que la maman est plus souvent synonyme d'amour, synonyme d'affection, synonyme de tendresse, où il va trouver la quiétude du cœur. Et il faut les deux. Il faut la quiétude du cœur et il faut en même temps le modèle, l'exemple. C'est comme ça que l'enfant va acquérir l'équilibre correct pour le côté psychologique. Mais s'il y a cassure, quand un enfant vit dans un couple monoparental ou même parfois des couples qui sont recomposés, etc., c'est pas pareil. Et parfois, on retrouve le syndrome. Les enfants divorcés, c'est pas une généralité, il n'y a rien de religieux, mais c'est un constat. Souvent, les enfants issus de couples divorcés, ils ont eux aussi des problèmes parfois de leur vie de couple, parce qu'ils ont grandi avec un traumatisme. Ou alors, il y a même des jeunes qui ont vu leurs parents divorcer, et depuis ce divorce, ils ne veulent pas se marier. Quand elle grandit, elle dit que non, je ne veux pas connaître ce que papa a connu, je ne veux pas connaître ce que maman a connu. Ça s'appelle un traumatisme. Pour eux, le couple, le mariage, était synonyme de traumatisme, donc ils ne veulent plus vivre ça. Moi, j'en connais des gens qui ont subi ce genre de traumatisme et ils se sont mariés très tard. Parce qu'ils ont vu telle chose dans la famille, pas forcément chez leurs parents, mais chez les oncles, chez les tantes. Et donc, ça reste quelque chose qui déchire les cœurs. Alors que tout, bi'idhnillah, est dans notre main. Si on fait preuve de sabr, on fait preuve de concession, on sait parfois baisser les bras, on sait faire preuve de bonté envers notre prochain, et on sait appliquer le verset wa'ashiruhunna bil ma'ruf, tout cela n'arriverait pas. Vous savez l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, qui recevait un plat de nourriture. On a déjà cité ce hadith plus d'une fois, alors qu'il était chez une de ses épouses. Et l'épouse, elle était un peu jalouse parce que celle qui avait envoyé la nourriture, hein, elle cuisinait beaucoup mieux. Et donc, elle a pris le plat de la main du servant qui amenait, elle l'a jeté, cassé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est vilain ça, oui non? C'est pas bien de faire ça. Alors imaginez notre réaction, nous. Si on est à la maison, et bon, supposez quelqu'un de la famille envoie quelque chose à manger, et que madame ce soir-là, elle a fait un truc, voilà quoi, elle ne s'est pas cassé la tête. Elle a réchauffé un truc surgelé ou un truc machin comme ça, alors que la famille envoie quelque chose de bien. Assurément, elle va se sentir vexée. Dit que voilà, que mon mari va aimer ce que l'autre a préparé et tout, et moi c'est comme si je n'ai rien fait, parce qu'effectivement elle n'a peut-être rien fait. Et donc là, elle prend le plat, alors que c'est quelque chose qu'on aime, un repas qu'on aime bien, elle le jette devant nous. Alors franchement, peu de personnes parmi nous pourraient rester patients de ce genre de situation. Au moins, on va dire des paroles, on va pas insulter, mais on va faire des remontrances, c'est sûr, parce que nous restons des êtres humains. Le prophète alayhi salatu wassalam, qui est rahmatal lil alamin, une bénédiction pour les mondes, qui est un modèle pour toute l'humanité, s'est baissé. Il a ramassé les débris du récipient, il a ramassé la nourriture qui était tombée, et puis il a pris la nourriture que son épouse, dans la maison où il était, avait préparé, il a pris le plat, il a rendu au petit garçon, il dit maintenant ramène ça à la dame, ramène ça à l'autre mère des croyantes pour compenser le plat qui a été cassé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a ni insulté, encore moins frappé, il n'a jamais levé la main sur une de ses femmes. Ça c'était le modèle prophétique dans les relations conjugales. Alors, normalement c'était pas ça qu'on devait développer. Il y avait un autre verset. Je ne sais pas si on en est à combien de temps. On a déjà 15 minutes, bon, on va s'arrêter, Inch'Allah. On voulait juste parler d'un verset extrêmement intéressant. Bon, en deux mots, lorsqu'Allah Ta'ala dit au Coran, وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. En deux mots, on ne va pas faire un tafsir. Dans ce verset, Allah Ta'ala interdit aux musulmans de s'envier mutuellement. Si Allah a accordé un bienfait à une personne, on ne doit pas être envieux. On ne doit pas faire preuve de jalousie. On ne doit pas faire preuve de jalousie. Alors que selon certains mufassirin, ce verset concerne bien sûr le fait de désirer quelque chose mondain. Si quelqu'un a un bienfait qu'on n'a pas, donc on est jaloux, on a envie, on aimerait avoir la même chose, ça il ne faut pas. Mais selon certains mufassirin, ça concerne également quelque chose de religieux. C'était, subhanallah, c'était les femmes des sahaba, radouanullahi alayhi majma'in, hein, elle était un petit peu jalouse, mais pas pour le dunya. Elle disait comment est-ce que c'est possible que les messieurs, ils ont le droit de combattre le chemin d'Allah et de mourir dans le chemin d'Allah alors que nous on ne peut pas le faire. Regardez le iman de ces femmes-là. Ce n'est pas qu'elles sont jalouses, pourquoi est-ce qu'on n'a pas des châteaux, on n'a pas des palais, on n'a pas comme les Romains qui ont des... Non, pourquoi est-ce que nous on ne peut pas faire telle bonne action comme les messieurs ont la possibilité de faire. Pour revenir au premier point, les savants disent que une personne ne doit en aucun cas faire preuve de jalousie ou désirer quelque chose qu'Allah Ta'ala a accordé à une autre personne. Parce que on va dire ce défaut, ce péché, la jalousie a des conséquences sur les actions et sur la foi. Sur les actions, quand le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la jalousie détruit les bonnes actions comme le feu détruit al-hatab, comme le feu détruit les brindilles. Comme un feu brûle en quelques secondes des brindilles, de la même façon, la jalousie va détruire vos bonnes actions. Imaginez, on fait beaucoup de bonnes actions en ce moment, beaucoup de hasanat dans le mois de Ramadan, mais si on fait preuve de jalousie, c'est un fléau, ça, la jalousie. C'est tellement mauvais que cela détruit, ça fait partie des péchés qui brûlent, des rares péchés qui brûlent et qui annulent donc les bonnes actions. Donc danger pour nos actions, danger également pour la foi. Parce que si on est jaloux d'un bienfait qu'Allah a accordé à une personne, ça veut dire, et qu'on n'a pas, bien sûr, ça veut dire qu'on n'est pas satisfait du taqsim. On n'est pas satisfait du partage qu'Allah a fait. Parce que si Allah a décrété que lui il est riche, moi je suis pauvre, c'est la volonté d'Allah. Et Allah Ta'ala sait exactement pourquoi il a fait telle personne avec telle qualité, telle personne avec telle qualité, telle personne aura du dunya, telle personne aura moins des biens de ce monde. Et Allah sait pertinemment pourquoi. Car dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique que Allah Ta'ala a partagé en ce sens les biens, et Allah Ta'ala savait que pour certaines catégories de personnes, il fallait de la richesse. Autrement, il serait tombé dans tel péché. Et pour d'autres catégories de personnes, Allah a décrété qu'ils n'auront pas la richesse. Parce que si Allah leur avait accordé la richesse, Allah Ta'ala il sait pertinemment qu'ils auraient fait tel mauvais choix. Et ça, ça fait partie, on ne peut pas concevoir ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le ilmullah. On dit qu'Allah il est alim, Allah c'est lui qui connaît. La science d'Allah, c'est également la science, bien sûr, du passé, du présent, du futur, mais également la science du futur conditionnel. C'est-à-dire que si Allah avait créé les choses différemment, comment est-ce que cela aurait été? Ça, c'est inimaginable, c'est inconcevable pour un être humain, ça. C'est-à-dire que nous, on peut se dire, oui, le futur sera comme ça. Non, si Allah avait décrété dès le départ que ça ne se passe pas comme ça, Allah, il sait déjà le futur qui ne se produit pas. Comment cela se serait passé s'il avait décrété telle chose? Donc, Allah, il sait pertinemment que si Ishaq, par exemple, il était riche, au lieu d'être pauvre, il serait sombré dans tel péché. Donc ça c'est la décision d'Allah, et le mu'min qui a la foi en Allah, il doit avant tout développer al-iman bil qada'i wal qadr. Ça c'est ce qu'on enseigne aux enfants. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Tout ce qui se passe, tout ce qui se produit dans la création, c'est la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand un musulman sait développer la foi sur le destin, c'est là qu'on peut dire que sa foi est vraiment au top, est vraiment au plus haut degré, au maximum. Et Allah Ta'ala, en compensation, il dit donc ne souhaitez pas, wala tatamannaw مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Et après, Allah Ta'ala conclut en disant وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. Demandez à Allah, plutôt que d'envier ce que les autres ils ont, adressez-vous directement à Allah subhanahu wa ta'ala et demandez. Quand le prophète a dit سَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ, demandez à Allah les bienfaits. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلْ. Quand Allah aime quand un serviteur lève ses mains et lui demande des choses. Allah aime quand un serviteur s'adresse à lui et fait des requêtes, des demandes. وَإِنَّ أَفْضَلَ الْعِبَادَ إِنْتِظَارُ الْفَرَجِ. Et un des meilleurs actes d'adoration, c'est quand on a fait un doua et qu'on attend quand Allah Ta'ala exauce le doua. Quand on a fait un doua et qu'on attend quand Allah Ta'ala envoie son aide, quand Allah Ta'ala concrétise notre demande. Quand le mu'min garde confiance jusqu'à la fin qu'Allah il va accepter mon doua, ça c'est une situation qui est aimée par Allah. Et en conclusion de le verset, Allah dit, et enfin, inna Allah kana bi kulli shay'in alima. Ibn Kathir il dit, huwa alimun. Allah il sait, biman yastahiqu ad-dunya. Qui mérite, qui doit avoir le dunya, fayu'tihi minha. Et Allah Ta'ala lui accorde. Wa man yastahiqu al-faqra. Et qui, pour qui serait mieux la pauvreté. Et Allah Ta'ala lui accorde donc la pauvreté. Parce qu'Allah il sait pertinemment, comme on a dit, le futur et même le futur conditionnel, ce qui est meilleur pour chaque individu. Qu'Allah Ta'ala donne tawfiq, mes chers frères, de comprendre ces quelques paroles. Hein, si on peut retenir ces deux points, premièrement, d'être toujours satisfait de ce qu'Allah Ta'ala nous a accordé, de ne pas être envieux. Et s'il y a vraiment quelque chose chez une personne qu'on n'a pas, on dit mashallah, d'accord, pour ne pas mettre le mauvais regard sur la personne. Et si on veut la même chose, on lève les mains et on s'adresse à Allah et on demande à Allah Ta'ala de nous accorder, parce que tout est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième chose qu'on doit retenir, c'est wa'ashiruhunna bil ma'ruf, comme Allah Ta'ala a insisté pour que dans un foyer l'homme se comporte correctement envers sa femme. Et on rappellera encore une fois ce qu'on avait dit avant-hier. Aïcha radiallahu anha, elle dit que avant d'aller à la masjid, mon prophète sallallahu alayhi wa sallam m'embrassait avant d'aller à la salat. Ça c'est preuve de tendresse et d'muhabba, d'affection que le prophète sallallahu alayhi wa sallam manifestait pour son épouse. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.